Vous allez écouter l'émission Mot de passe.
2020 est une année bouleversante. Rassurons-nous, la planète Terre continue son inlassable rotation céleste. Des pandémies, la Terre en a vu d'autres. Du choléra à la peste, l'ergot du diable au virus de fabrication humaine, la littérature a bien exploité la contagion pour nous livrer des pandémoniums. Alors, mes chercheurs de l'ombre m'ont soumis les grands livres de la littérature épidémique. Le Hussard sur le toit, de Jean Jouleneau, qui traverse la Provence touchée par une épidémie de choléra. Les Pestiférés, de Marcel Pagnol, qui raconte l'épidémie de peste qui décima Marseille en 1720. Que l'on peut aussi retrouver en BD. La Peste, d'Albert Camus, que l'on retrouvera sûrement dans le bulletin officiel de l'éducation nationale l'année prochaine. Entrée dans la danse, de Jean Tellet, qui sait toujours nous narrer l'atroce historique avec un certain humour noir. Il nous conte les souffrances que vécurent les Strasbourgeois il y a plus de 500 ans, suite à la famine, la maladie, l'eau souillée, la peste. Les habitants se mirent à danser jusqu'à la mort. Les fiancés, d'Alessandro Manzoni, un très grand roman italien, l'histoire d'un amour complexe au XVIIe siècle sur fond de guerre civile et de peste milanaise. Mes trois chouchous. Le mur invisible de Marlène Haushofer, une Robinson presque moderne isolée en montagne suite à une catastrophe planétaire. C'est vibrant et qu'il est bon d'aimer les animaux dans ces moments d'isolement. Dans La forêt de Jean Egland, c'est la survie dans la riche nature de deux jeunes filles suite à l'effondrement du monde contemporain. Le vide opératoire pour la vie, la déconstruction pour la reconstruction, la vie dans sa pure essence, c'est jubilant. Et ça ne laisse pas indifférent, croyez-moi, on se calme sur l'achat compulsif. On peut aussi le retrouver dans une version bande dessinée. Ah oui, je voulais absolument rendre honneur à la traductrice Josette Chiche-Portiche, cette travailleuse de l'ombre fondamentale pour nous lecteurs. Mais la trilogie qui m'a le plus bouleversée sur le thème de la catastrophe humanitaire dont l'humain est le seul grand responsable, au travers d'un virus extrêmement mortel conçu par des militaires avides de puissance stratégique, c'est bien entendu Le fléau de Stephen King. Et ne vous laissez pas détourner par des versions séries ou films qui ne sont que de palichonnes représentations sans saveur et ampleur. Si vous lisez Le fléau, vous garderez une empreinte éternelle et vous ne vous laisserez plus jamais regarder de travers par un corbeau. Bonjour à tous, auditeurs de RTVFM, je vous salue avec la plus grande tendresse. Nous ne sommes pas tout seuls dans notre isolement et justement, nous nous isolons parce que nous nous aimons. En préambule, je vous ai présenté quelques lectures d'actualité, mais pas d'inquiétude. Lire est une discipline, nos neurones en ont besoin, lire nous plonge dans des mondes et vous ne tomberez pas en dépression, même si vous pensez que le choix des livres de ce mois est anxiogène. Non, bien au contraire, il vous ouvre des portes. Et nous avons tous envie d'ouvrir des portes pour aller presque n'importe où ailleurs. Le livre vous apporte des vagues de réflexion, bien différentes de ce que vous propose la violence des médias. Lisons, méditons, aimons. Au programme, pour ce mois d'avril, dans un premier temps, une rencontre autour du livre « Entretien » de Marie Le Gall, Palo Alto, ce livre, entretien au cœur de l'approche systémique, elle nous éclaircira ou elle nous éclairera sur ce qu'est Palo Alto. Ensuite, j'ai fait mon travail scolaire pour vous. J'étais un petit peu en retard sur mes devoirs, mais je me rattrape avec un roman nouveau. Alors, j'entends par roman nouveau le mouvement littéraire qui se fabrique autour de la maison d'édition Autour de Minuit dans les années 1950. Où l'axe classique du roman est chamboulé. La narration n'appartient plus à un seul conteur, mais se laisse porter au gré des idées, des pensées, etc., etc., etc. Bref, je me suis collée à la lecture imposée par l'éducation nationale pour les élèves de première. Et c'est Nathalie Sarotte avec Enfance. Et pour finir, une micro-actualité culturelle locale et mon conseil lecture du mois.
Au détour d'une rencontre.
Les chemins de la formation m'ont amené à une lecture, Palo Alto, ce livre entretient au cœur de l'approche systémique de Teresa Garcia Rivera et Marie Le Gall. Comment ne pas vous en faire profiter ? C'est un livre avec un sujet phare, bien entendu, mais deux auteurs, dont une habitante du Vaucluse. La forme est parfaite, puisqu'il s'agit bien d'un entretien sur Palo Alto. Donc, je vais faire l'entretien d'un entretien. Bon, plus sérieusement, mais pas moins drôle, Marie Le Gall se prête à mon interview alors qu'elle-même est l'intervieweuse dans l'ouvrage. Allez, arrêt de suspense. Palo Alto, Quesaco. Alors, j'ai pris le Larousse. Il nous dit que c'est une école, un mouvement d'idées né dans les années 50 à l'hôpital psychiatrique de Palo Alto, Californie, sous les auspices d'un anthropologue-psychologue, Gregory Bateson. Ce mouvement contribue à promouvoir l'étude des rites d'interaction et de la communication au sein des groupes. Explication succincte du Larousse, néanmoins existante. Bien entendu, le livre de Marie Le Gall et Teresa Garcia Rivera nous en dit bien plus long et je crois avoir compris toute la portée fondamentale de l'école de Palo Alto. Marie Le Gall, je vous remercie pour votre livre et j'ai très envie de partager ma lecture, mais avant tout, il faut nous dire ce qu'est plus précisément Palo Alto.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter et de me permettre de parler de l'école de Palo Alto. Alors, l'école de Palo Alto, pour l'expliquer, en parler un peu plus précisément, déjà peut-être dire que Palo Alto, c'est une ville des États-Unis, hein, donc tout a commencé là-bas, aux États-Unis. C'est à côté de San Francisco, hein, dans la baie de San Francisco. Donc cette ville qui s'appelle Palo Alto, qui est aussi connue beaucoup plus maintenant d'ailleurs comme étant ce qu'on appelle la Silicon Valley, voilà. Et donc dans cette ville s'est développé dans les années 40-50 un groupe de chercheurs emmené par un monsieur donc, que vous avez cité, hein, qui s'appelle Gregory Bateson, effectivement, qui lui était anthropologue, avec sa femme d'ailleurs, Margaret Mead. Et lui, ben, vous savez, il y a des chercheurs qui cherchent, il y en a qui trouvent. Donc lui faisait partie des personnes qui ont trouvé des choses. En l'occurrence parce qu'il a fait beaucoup de séjours dans des tribus. Et il a beaucoup regardé comment les tribus vivaient, mais surtout, en fait, traitaient l'information. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Palo Alto, c'est une école de pensée, hein, de toute façon, qui est aussi une école de pensée qui a développé des aspects thérapeutiques. Et ça a commencé, on peut dire, par le fait justement d'observer et de voir que quand l'information se transmet, c'est une chose très très importante. Et selon ce que l'on dit, ce que l'on ne dit pas, ce que l'on se dit à soi-même ou ce que l'on ne se dit pas, eh bien, il va y avoir des différences. Donc, toutes les observations qu'avait fait Gregory Bateson dans ses tribus, lui, il en a parlé, évidemment, hein, en tant que chercheur. Et il y a eu ensuite, je fais un petit peu court, évidemment, hein, mais il y a eu ensuite la rencontre avec d'autres personnages de l'école de Palo Alto, en particulier Don Jackson, qui, lui, était médecin, et qui a vu l'intérêt de justement s'appuyer sur ces concepts, hein, théorie de l'information, hein, c'est aussi l'époque d'un monsieur qu'on appelait Shannon, hein, qui a fait beaucoup sur la communication. Donc tout s'est appuyé sur comment fonctionnaient les groupes, comment fonctionnaient aussi les machines et les communications dans les machines, ce qu'on appelle la cybernétique, hein, ce qui a donné plus tard les ordinateurs, etc. Voilà, donc c'était tout un ensemble d'éléments là qui bouillonnaient un petit peu et qui a fini, si vous voulez, par donner une théorie de la communication. Voilà, de la communication, qu'elle soit entre les êtres mais également, on peut dire, une sorte de communication avec soi-même. C'est-à-dire, si je reviens à l'information, c'est comment en moi-même je traite l'information. Et selon comment je traite cette information, eh bien, ça va donner des choses totalement différentes. Alors, ce qu'on peut ramener aussi de l'école de Palo Alto, c'est quelques principes de base. C'est ce qu'on appelle, d'abord, c'est une approche systémique. C'est-à-dire que l'école de Palo Alto s'est rendu compte qu'en fait, par exemple, en thérapie, s'il recevait une personne qui, dans une famille, pouvait être en souffrance, la personne pouvait aller mieux, mais lorsqu'elle repartait dans sa famille, soit elle retombait pas très bien, ça n'allait pas très fort, ou bien elle-même ça allait bien, mais peut-être une autre personne de la famille, elle n'allait pas très bien. Donc, il a été important à ce moment-là pour eux de se questionner sur « mais qu'est-ce qui fait ça ?» Et en fait, le concept justement d'approche systémique, c'est d'imaginer qu'en fait, la personne fait partie d'un système, en l'occurrence là, le système familial. Et que plutôt que d'essayer d'aider une personne qui fait partie d'un ensemble, il serait peut-être bon d'aider l'ensemble. D'où ce qu'on a appelé, ou qu'on appelle toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle la thérapie familiale, c'est-à-dire qu'en fait, des thérapeutes de Palo Alto, par exemple, et d'autres aussi, qui ont opté pour l'approche systémique, vont traiter, vont soigner, si vous voulez, la famille elle-même, le système famille lui-même. Voilà. Ce qui, évidemment, n'a pas du tout la même portée et surtout la même efficacité. Voilà, donc il y a ce fait, c'est que le Palo Alto est une approche systémique. C'est aussi ce qu'on appelle constructivisme. Alors, constructivisme, c'est un grand mot. Ça veut dire tout simplement que la réalité, ce qu'on appelle nous la réalité, comme ça, voilà, il y a la réalité. En fait, dans l'approche systémique de Palo Alto, en fait, la pensée, c'est plutôt que la réalité se construit, d'où le constructivisme. Et la réalité se construit, la pensée se construit aussi, finalement, mais aussi et surtout, le problème se construit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème comme ça en soi, mais il va y avoir un problème à partir du moment où soi-même, on le perçoit comme étant un problème. Alors c'est aussi ça qui change beaucoup une perception qu'on avait plutôt habituellement de voilà, il y a un problème et ce problème on essaye de le résoudre, etc. Et justement lorsqu'on n'y arrive pas, eh bien, on commence à vraiment avoir un problème, c'est je pensais que j'étais capable de résoudre le problème, je n'y arrive pas, donc j'ai un problème, etc., etc. Dans l'approche de Palo Alto, la pensée c'est plutôt quelque chose en moi se traduit, donc toujours rapport à l'information, je le traduis de telle et telle façon, je le ressens de telle et telle façon, et cette façon que j'ai de le ressentir fait que pour moi, c'est un problème. Voilà. Donc, dans cette approche de Palo Alto, qui est aussi une approche autant thérapeutique que liée à tout ce qui est l'approche de la communication tout simplement, entre les êtres et aussi envers soi-même, ce qu'on appelle une pragmatique de la communication. Voilà, ce sont les deux parties qui ont été développées dans l'approche de Palo Alto, qui fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Alors, thérapie brève, c'est pas parce que ça va être très vite tout de suite, c'est pas magique, comme souvent d'ailleurs beaucoup de personnes le pensent, ce n'est pas une question de magie, c'est une question de méthode, d'approche qui permet à des personnes de respirer, de sortir à nouveau d'une façon de percevoir les choses, voilà, de les ressentir, et tout à coup, ça a dégagé devant soi la possibilité d'un futur qu'on imagine plus sympathique.
Comment, Marie, Palo Alto est arrivé à vous, et si vous pouvez nous parler un petit peu de Teresa Garcia Rivera?
Alors, ma rencontre avec Palo Alto s'est faite par un livre. J'avais déjà, moi, auparavant, entendu parler de Palo Alto, et puis j'ai lu un livre d'un monsieur qui s'appelle Paul Václavic, Et Paul Watzlawick est un des grands noms de l'école de Palo Alto, comme Dick Fish, John Vicland, etc. Et lui, il a énormément permis la vulgarisation et de cette approche de l'école de Palo Alto. Donc beaucoup, beaucoup de personnes qui seraient intéressées par l'école de Palo Alto vont trouver cette approche décrite par plusieurs façons d'ailleurs de l'appréhender par ce monsieur qui s'appelle donc Paul Watzlawick. Et qui lui-même étant thérapeute à Palo Alto, et lui il travaillait énormément en tant que thérapeute sur avec les paradoxes, puisque c'est une école aussi qui utilise beaucoup le paradoxe. Nous sommes des êtres paradoxaux. Quand on nous dit de pas sauter dans une flaque, je pense que nous sommes nombreux à penser qu'il va falloir sauter dans la flaque, si possible. Voilà, que nous ne sommes pas forcément que des êtres de raison. Du coup, l'approche paradoxale est une approche qui est très performante et aide beaucoup les personnes à aborder leurs problématiques. Voilà. Paul Watzlawick, il a écrit des livres comme « Faites-vous-même votre malheur », des livres qui déjà disent pas mal dans leur titre. Moi, j'ai lu un de ses livres qui s'appelle « Paradoxe et psychothérapie ». Et pour moi, ça a été la rencontre, c'est-à-dire l'évidence. Je trouvais enfin quelqu'un qui disait des choses que moi, je pensais absolument fortement. Alors, quand même, j'ai eu un peu de mal parce que en fait, ça c'est quelque chose de nouveau par rapport à notre façon de penser, nous, dans notre culture plutôt européenne et française en particulier. Et ça, c'est une approche un petit peu différente des différents éléments qu'on peut avoir justement dans la communication et dans la façon dont fonctionne aussi notre cerveau. Puisque, évidemment, ça s'appuie beaucoup sur tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui les neurosciences, etc. La lecture de ce livre, pour moi, a été absolument révélatrice. Alors je me suis engagée naturellement sur une formation pour me former à l'école de Palo Alto, parce que ça me ressemblait pour moi fortement. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Teresa Garcia Rivera, qui est cofondatrice avec un autre monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Vitezal de l'IGB à Liège, donc l'Institut Grégory Bateson, qui a été donc fondée en Belgique, et qui a été, adoubée par l'école de Palo Alto aux États-Unis pour pouvoir diffuser cette approche en Europe particulièrement, ou en tout cas dans l'espace francophone. Donc la rencontre avec Teresa, la rencontre, je pourrais dire, d'une grande dame, une très grande dame, qui, elle, a travaillé avec Paul Watzlawick, etc., aux États-Unis, qui est tombée dedans un peu comme Obélix quand elle était petite, parce qu'elle avait cette approche directe, c'est-à-dire que même avec elle, évoquer une difficulté qu'on peut rencontrer par moment, etc., n'importe laquelle, elle vous posait de façon très banale une simple question. Et cette question permettait immédiatement d'avoir un autre point de vue sur la chose. Et ça a été une des choses qui m'a vraiment énormément touchée et frappée. Et en plus, une personne qui était d'une écoute et d'une ouverture vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que quand vous vous sentez vraiment, vraiment écouté, ça c'est quelque chose déjà qui soigne, je veux dire que non, on est vraiment déjà thérapeute dans ce sens-là. Et c'est en la fréquentant que m'est venue justement l'idée de ce livre que vous avez eu la gentillesse de citer, Palo Alto ce livre, parce que moi j'avais autour de moi des personnes qui me posaient des questions en disant « Bon d'accord, Palo Alto c'est bien, ça règle tel et tel problème, mais c'est quoi Palo Alto? Si par exemple moi j'ai telle et telle chose, qu'est-ce que ça va faire pour moi? Comment ça marche ton affaire ?» Donc du coup, j'ai demandé à Teresa si elle acceptait de vouloir justement répondre aux questions. Donc moi je me suis mise dans la posture un petit peu de candide et de poser les questions, de me faire le porte-parole la porte-parole des questions que l'on m'avait posées et auxquelles moi-même j'avais pas de réponse suffisamment pertinente, je dirais, et profonde que pouvait amener Teresa dans la connaissance qu'elle a, puisque elle avait des années et des années de pratique et d'enseignement et de fréquentation, bien sûr, de l'école de Palo Alto aux États-Unis.
J'avais un sous-entendu dans ma question. Palo Alto est arrivé à vous par l'intermédiaire de Teresa Garcia Rivera. Mais Marie, comment Palo Alto peut aussi arriver chez nous, chez moi, chez les auditeurs de RTVFM ?
Comment Palo Alto peut arriver chez vous ? Alors, il y a plusieurs ouvrages qui vous permettent de faire connaissance avec l'école de Palo Alto. J'en ai cité quelques-uns, des livres de Paul Vaslavik. Il y a également des livres qui sont aussi très intéressants d'un monsieur qui s'appelle Giorgio Nardone, qui était un petit peu le fils spirituel de Paul Vaslavik, c'est comme ça en tout cas qu'il le nommait, qui lui est en Italie et qui pratique bien évidemment, il a une clinique en fait où il reçoit des personnes et il les aide donc dans l'approche de Palo Alto. Voilà donc beaucoup d'ouvrages. Et puis éventuellement des formations pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin ou en savoir plus. Je pense aussi que tout ce qui peut être sur Internet, etc., donne déjà aussi beaucoup plus d'éléments que moi-même j'ai pu en faire là avec vous aujourd'hui.
Marie, j'ai ma petite idée depuis la lecture de votre ouvrage. Comment et où utilisez-vous Palo Alto ?
Alors moi j'ai la chance de pouvoir utiliser Palo Alto des deux façons. Alors un peu moins en ce moment l'une que l'autre. Donc moi je suis également diplômée de l'école de Palo Alto, enfin de l'Institut Grégory Bateson plus exactement de Liège. Je suis également thérapeute. Et puis je suis également formatrice par ailleurs. Et dans ce monde de la formation, que je crois vous connaissez bien d'ailleurs, je peux utiliser, je dirais, quelques outils, quelques éléments, justement, en termes de communication, en termes d'interaction, en termes d'entretien, comment éventuellement dans un entretien, bien, on peut aider les personnes à exprimer leurs problématiques, puis utiliser peut-être le paradoxe, utiliser aussi de la stratégie, qui va permettre à la personne, à partir du moment où on est dans le profond respect, bien entendu, de l'objectif de la personne, comment est-ce qu'à ce moment-là, on peut nous-mêmes, connaissant quelques techniques, bien l'aider à aller mieux, ou en tout cas à percevoir les choses d'une autre façon. Pour moi, ce sont des outils de communication dans les interactions qui sont extrêmement efficaces. Voilà, donc dans un monde de formation, dans un monde où on rencontre les autres, ça veut dire que c'est ouvert à tellement de choses. Toutes les interactions que l'on a toute la journée peut permettre de toute façon d'utiliser cette approche qui, franchement, très, très clairement, dans les discussions, dans les relations que l'on peut avoir, voire des relations d'ailleurs conjugales ou autres, ou familiales, bien évidemment, permettre d'arranger quand même beaucoup, beaucoup de situations où on a une manière habituelle de dire et de faire les choses. Et là, peut-être justement d'envisager qu'on se pose d'une autre façon dans la relation. Et cette façon différente d'envisager aussi la relation avec l'autre, ben ça peut tout changer. Une petite chose peut tout changer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, qu'en tout cas, je peux dire que depuis que je suis rentrée dans cette approche de Palo Alto, très clairement, ma vie relationnelle s'est modifiée. Je pense que je suis mieux aujourd'hui, enfin ça j'en suis certaine, mais je voulais dire que je pense que je suis mieux aussi avec les autres et pour les autres. Donc pour moi, gagnant sur toute la ligne.
Marie, à la lecture de votre entretien avec Teresa Garcia Rivera, j'ai senti la portée thérapeutique de l'approche systémique qu'est Palo Alto. Êtes-vous thérapeute ? J'ai perçu une petite attaque envers la psychanalyse. Comment l'expliquez-vous ?
Alors oui, portée thérapeutique, effectivement. Petite attaque vers la psychanalyse. Alors, c'est pas tout à fait une attaque, si vous voulez, mais en même temps, c'est plutôt une différence. Voilà, c'est vraiment une approche différente, l'approche de Palo Alto et l'approche analytique comme on a l'habitude de la connaître nous plutôt ici en Europe, en France, etc. Hein, tout, avec la base de Freud et de Lacan, enfin toutes les personnes qui étaient plutôt dans l'analyse. Là, il y a une différence effectivement dans cette approche qui est liée sur quoi se tient l'approche thérapeutique. L'approche thérapeutique, comme je vous l'ai dit, en fait, elle se tient sur le traitement de l'information. Selon comment je traite l'information, eh bien, je vais vivre quelque chose comme étant un problème ou, d'ailleurs, n'étant pas un problème. Et ça se passe tous les jours, dans notre quotidien. Et puis, l'approche analytique, elle est plutôt basée, non pas sur un traitement de l'information, mais sur l'énergie. Dans l'analyse, dans les analyses, dans la psychanalyse, on parle beaucoup de pulsions, pulsions de vie, pulsions de mort, pulsions sexuelles, etc. Donc on parle vraiment des pulsions. Voilà, et ça c'est une différence fondamentale. Ce qui fait que la façon d'aborder les choses, et pour moi je tiens à le dire très clairement, il n'y a pas de bonne et de mauvaise approche. Toutes les approches sont bonnes, ce n'est qu'à nous-mêmes de voir celle qui nous convient le mieux. Ça me semble celle qui marchera, de toute façon c'est celle qui nous convient, hein. Y a pas, personne n'a inventé la poudre ou autre, hein. Voilà, mais en tout cas la différence majeure c'est celle-là. Plutôt dans l'approche analytique, psychanalytique, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc., pour peut-être faire diminuer le traumatisme, etc., donc amener un éclairage de compréhension. Dans l'approche systémique de Palo Alto, on n'est pas dans l'utilité d'aller voir ce qui s'est passé avant, il y a longtemps, etc. Parce que, l'idée, c'est que ce qui vous a embêté ou ce qui vous embête encore aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nourrit encore ce qui, hier, nous a porté problème. Hein, voilà, par exemple... Je n'ai pas réglé quelque chose, dans ma famille, avec ma mère ou mon père. Bon, à ce moment-là, cette histoire, ça m'embête. Et quand je vais les voir, je suis toujours là. Hein, et à chaque fois qu'ils disent ça, hop, ça me refait monter un peu de colère ou un peu de ci ou de ça. Mais j'ai beau savoir que c'est ça, ça n'empêche que ça ne m'aide pas. Je le sais, mais j'arrive pas à faire plus ou mieux que ça. Donc dans l'approche de Palo Alto, nous, on ne pense pas forcément que la compréhension mentale, si vous voulez, dans ce sens-là, va faire quelque chose à l'affaire. On va surtout faire en sorte de voir qu'est-ce que dans votre vie quotidienne, vous continuez à faire, qui continue à maintenir le problème. Et l'approche de Palo Alto, elle n'a qu'un objectif. C'est, comme je pourrais dire en image, de mettre un coin dans la porte, c'est-à-dire de vous proposer quelque chose, à un moment donné, pour vous empêcher d'avoir recours tout le temps à la même façon de fonctionner, qui, par évidence, ne fonctionne pas. Donc voilà, de faire quelque chose, de modifier quelque chose, très légèrement, hein, ce ne sont que des stratégies, des petites astuces, en plus c'est très, très ludique et j'adore le ludique, donc c'est vrai que je me retrouve bien dans cette approche-là. Et à un moment donné, en n'ayant plus recours habituellement aux mêmes ressources, etc., quelque chose va changer dans le système. Et ce quelque chose, d'un coup... va permettre de modifier parfois et même le plus souvent, hein, très très profondément la situation. Et c'est là où parfois certaines personnes disent oui, c'est un côté un peu magique Palo Alto, parce qu'on comprend pas comment ça a fonctionné, mais quelque chose s'est passé. Ça veut dire que cette approche là n'a aucune solution, aucun thérapeute Palo Alto ne dira voilà ce qu'il faut faire. Nous, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne le sait pas du tout, mais on sait que ce que vous tentez de faire tout le temps, ça ne fonctionne pas. Et que ça, il faut l'arrêter. Voilà, ça, c'est un petit peu cette approche-là, puisque justement, c'est le fait de traiter l'information qui, malheureusement, est redondante, est tout le temps la même. Dans l'approche psychanalytique, analytique, etc., on est plutôt dans la recherche de la compréhension et voire même de l'acceptation de ce qui s'est passé, etc. C'est un autre type d'approche. Simplement, ce qui s'est passé avec Palo Alto, la psychanalyse, etc., c'est que, et en particulier par rapport aux lacaniens, c'est que l'approche de Palo Alto, lorsqu'elle est arrivée vers l'Europe, a été extrêmement combattue par des personnes plutôt dans l'esprit de Lacan, enfin en tout cas par Lacan, hein, voilà, traitant cette approche de fantaisiste et que voilà, on fait rentrer quelque chose, on le fait sortir par la fenêtre ou alors on le fait sortir par la porte, ça rentre par la fenêtre, c'est-à-dire ça ne soigne pas le symptôme. Hein, voilà. Et dans ces approches analytiques, psychanalytiques, on est sur les symptômes. Dans l'approche de Palo Alto, on n'est pas dans cette approche-là. La personne peut expliquer tout ce qui lui est arrivé, ce que ça lui fait, etc. Mais comment faire pour en sortir ? Comment faire pour que la personne ne le vive plus comme étant un problème ? Voilà où on se situe dans cette approche.
Il y a une tradition dans l'émission Mot de passe sur RTVFM, et de demander à l'interviewé quel est le livre qui vous a bouleversé, ou le livre de votre vie ?
Le livre qui a marqué ma vie, je dirais deux quand même, finalement, je vais oser. Le premier, j'en ai parlé, hein, c'est celui de Paul Watzlawick, donc « Changement, paradoxe et psychothérapie », parce qu'il a ouvert pour moi et dans ma vie une nouvelle voie. Et puis également Marguerite Yourcenar, « Mémoire d'Adrien », magnifique pour moi, une ouverture absolue sur le français, l'écriture, le français, la qualité des mots, ce magnifique langage. Ça a été vraiment une découverte. Je le lisais avec parfois un dictionnaire à côté. Parce que, et quand je regardais les mots qui avaient été écrits, que je ne connaissais peut-être pas très bien, je trouvais que l'explication, c'était parfait. Exactement, c'était juste, c'était vraiment, ça a été une découverte, elle m'a fait découvrir vraiment la langue française et sa beauté.
Et quel livre lisez-vous actuellement, Marie ?
Pour le livre que je lis actuellement Les rêves, langage de l'âme, par Sophie Delavis-Setton, Réal Édition. Et en fait, d'ailleurs, ça prouve que on peut tout à fait apprécier l'approche de Palo Alto et aimer aussi les personnes qui travaillent différemment, parce qu'elle est psychanalyste symbolique, psychopraticienne et thérapeute de couple. Et nos rêves sont nos compagnons. Et en fait, dans ce livre, elle explique. Elle explique que, bien sûr, on ne dit pas parce que si c'est une porte, ça veut dire que, etc. Il n'y a pas ce genre d'explication, mais c'est beaucoup plus profond dans ce que nous disent nos rêves et comment ils ont un impact sur nous, comment nous avons un impact sur eux, etc. Donc, c'est une lecture plus profonde, comme une voix intérieure, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très passionnant.
Merci Marie de Gade, merci de nous avoir un petit peu expliqué davantage votre ouvrage. Donc je le renomme Palo Alto, ce livre, un entretien au pluriel au cœur de l'approche systémique. Donc c'est un entretien que vous avez avec Teresa Garcia Rivera aux éditions Satas. Alors on peut l'acheter évidemment sur le net, on peut choisir le bon net, et on peut aussi le commander via sa librairie de quartier. Les librairies de quartier sont fermées actuellement, mais vous pouvez les contacter et elles peuvent vous livrer. Donc adressez-vous à votre librairie de quartier, téléphonez-leur et je peux vous dire que ça fonctionne, et ça fonctionne en toute sécurité. Encore merci Marie.
C'est moi qui vous remercie et j'espère que ces quelques bribes de l'esprit et de cette approche de Palo Alto, j'espère vous en avoir donné quelques éclairages. C'est pas très facile, c'est une approche qui a des fondamentaux de base qui sont importants. Alors le résumé est un peu difficile à faire. J'espère que je vous en ai donné un peu le goût, on ne sait jamais. Et j'espère que ça vous fera le plus grand bien. Merci beaucoup.
Allez, pour le décor musical, puisque Palo Alto, ça se passe en Californie, puisque la Californie, on en rêve quelquefois, surtout en ce moment. California Dreaming de Jose Feliciano.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Yeah. I went into a church. I stopped along the way. I told him so. California dreaming, yeah, on such a winter's day, yeah.
Après cette récréation musicale, juste un petit rappel sur les bouquins cités par Marie Le Gall. Son livre fondateur est « Paradoxe et psychothérapie » de Paul Watzlawick, que je vous épelle. Watzlawick, W-A-T-Z-L-A-W-I-C-K. Un nom bien de chez nous. Un incontournable en pédagogie, communication et bien entendu culture générale. Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar qui est au programme des classes de première. Et le dernier est Les rêves, langage de l'âme de Sophie Delavis-Setton. Alors Delavis-Setton, c'est en deux mots, Delavis et Setton. On va attaquer nos devoirs avec la chronique cas d'école. C'est parti pour le contrôle.
La chronique cas d'école.
Pour notre cas d'école du mois d'avril 2020, j'ai travaillé sur le moi, enfin le soi, plus précisément la connaissance de soi. Je m'explique. Je vous rappelle que l'éducation nationale, les enseignants se doivent de suivre un programme et de faire suivre un programme aux élèves qui soit en congruence avec l'examen final. Le Graal. Oups, pardon, juste le baccalauréat. Et dans ce dit programme, il y a des lectures imposées. Pour le mois d'avril, je me suis collée à la lecture de la classe de première de la voie technologique. C'est un objet d'étude, le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Nathalie Sarotte, enfance. Voilà le travail. Enfin, si on considère que lire est un travail, comme si regarder un film était un travail. J'ai un peu tardé à le lire, ce bouquin de Nathalie Sarotte. Qui c'est cette Nathalie? Ce que je lis sur la quatrième de couverture aux éditions Folio, c'est qu'elle nous parle de son enfance. Mais ça intéresse qui, vous allez me dire? Pas moi! Eh bien, surprise est de constater que oui, j'y ai trouvé mon compte. Certes, je n'ai plus l'âge de passer le bac. Justement, il faudrait... Blague à part, comment, chers enseignants, faire passer le breuvage à vos élèves? En contextualisant? Nathalie Sarotte est née à Ivanovo en 1900 dans une Russie glaciale. Elle raconte donc une période datant de 1900 à 1912. Wow! Il y a plus d'un siècle et pourtant l'écriture est très contemporaine. Russe? Pourtant, elle écrit en français. Et quel français? Un français de l'école communale, où l'on portait la blouse, porte-plume et tableau noir, où s'éventait la poudre blanche de la craie. En 1902, les parents de Nathalie Sarotte se séparent. Imaginez donc, il y a plus d'un siècle, un divorce. Ses parents sont juifs, mais bien dotés. Ce qui épargnera à Nathalie Sarotte l'enfer du nazisme. D'ailleurs, elle n'en parlera jamais dans sa vie d'écrivaine. Fille d'un père chimiste et d'une maman écrivaine, elle aura un terreau béni pour l'écriture. Bon, je suis un peu dure à ce propos. Tous les enfants aisés ne deviennent pas de bons écrivains. Là, je vous ai planté le décor. Enfin presque. Son récit se situe entre ces deux et 12 ans à peu près, donc dans les années 1902-1912. Mais elle l'écrit en 1982, c'est-à-dire presque 80 ans plus tard. Alors, le mobile, il est où? Nous y sommes. Elle a été ballottée entre son père et sa mère, entre la Russie, la Suisse et la France, pour finir abandonnée par sa mère, aux bons soins de son papa et de sa belle-mère. Imaginons. Vous êtes une fille, née en 1900, en Russie, de parents à l'esprit très ouvert. Votre mère se remarie et consacre tout son temps à la lecture, l'écriture et les grands esprits. Par commodité, elle vous échoue à Paris chez votre père, qui lui aussi a refait sa vie avec une jeunesse. Eh bien, à Nathalie, à 80 ans, il lui reste des mots, des images, des non-dits, des gestes. Et ce poids des mots, prononcées par des adultes, ont façonné sa vie. Alors non, ce n'est pas une biographie, même si ce qu'elle nous dit fait partie intégrante de sa vie. Elle nous parle de psychologie, elle nous parle de ses souffrances qui nous forgent, elle nous parle de nous, enfants et parents. L'originalité de son écriture réside dans le fait qu'elle utilise un dialogue entre elle et son surmoi, comme si toute sa vie durant, elle attendait ce moment. Tenez, je vous laisse écouter l'ouverture d'enfance de Nathalie Sarotte, lue par Lou Billet-Poise.
Alors, tu vas vraiment faire ça? Évoquer tes souvenirs d'enfance? Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs, il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Oui, je n'y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être... Est-ce que ce ne serait pas... On ne s'en rend parfois pas compte. C'est peut-être que tes forces déclinent. Non, je ne crois pas. Du moins, je ne le sens pas. Et pourtant, ce que tu veux faire, évoquer tes souvenirs, est-ce que ce ne serait pas... Oh, je t'en prie. Si, il faut se le demander. Est-ce que ce ne serait pas prendre ta retraite, te ranger, quitter ton élément, ou jusqu'ici, tant bien que mal? Oui, comme tu dis, tant bien que mal. Peut-être, mais c'est le seul où tu aies jamais pu vivre, celui... Oh, à quoi bon? Je le connais. Est-ce vrai? Tu n'as vraiment pas oublié comment c'était là-bas? Comment là-bas tout fluctue, se transforme, s'échappe? Tu avances à tâtons, toujours cherchant, te tendant vers quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble à rien. Personne n'en parle. Ça se dérobe. Tu la grippes comme tu peux. Tu le pousses. Où ? N'importe où. Pourvu que ça trouve un milieu propice où ça se développe. Où ça parvienne peut-être à vivre. Tiens, rien que d'y penser. Oui, ça te rend grandiloquent. Je dirais même outrecuidant. Je me demande si ce n'est pas toujours cette même crainte. Souviens-toi comme elle revient chaque fois que quelque chose d'encore informe se propose. Ce qui nous est resté des anciennes tentatives nous paraît toujours avoir l'avantage sur ce qui tremblote quelque part dans les limbes. Mais justement, ce que je crains cette fois, c'est que ça ne tremble pas assez, que ce soit fixé une fois pour toutes. Du tout cuit, donné d'avance. Rassure-toi, pour ce qui est d'être donné, c'est encore tout vacillant, aucun mot écrit, aucune parole ne l'ont encore touché. Il me semble que ça palpite faiblement, hors des mots. Comme toujours, des petits bouts de quelque chose d'encore vivant. Je voudrais, avant qu'ils disparaissent, laisse-moi. Bon, je me tais. D'ailleurs, nous savons bien que lorsque quelque chose se met à te hanter... Oui, et cette fois on ne le croirait pas, mais c'est de toi que me vient l'impulsion. Depuis un moment déjà tu me pousses. Moi ? Oui, toi, par tes objurgations, tes mises en garde, tu le fais surgir, tu m'y plonges.
Je vous ai choisi la petite musique classique qui va bien, mais je vous rassure, Lou est une vraie jeune bien de chez nous. Et je ne pouvais pas mettre en fond quelque chose de trop rythmé. Puis il fallait que ça fasse d'époque. Alors, on est au tout début du texte. Par la suite viendra l'écartèlement entre père et mère, les déchirures, les mots qui s'ancrent. Et comment ne pas faire de parallèle avec nos propres vies, nos souffrances d'enfants et nos erreurs de parents. Alors oui, lire « Enfance » de Nathalie Sarraute fait sens à nos lectures imposées, à condition, chers enseignants, d'avoir le temps de laisser parler nos élèves sur les mots et les gestes qui ont fait leur propre enfance. Lisez-le, élèves et parents, ou lisez-le, élèves et parents, et faites des analogies sans culpabilisation, puisque depuis, Boris Cyrulnik nous a fait travailler sur la résilience. À bientôt, au prochain cas d'école.
L'actualité littéraire.
Pour l'actualité, les dames de la librairie Galerie Gulliver à Carpentras aiguisent leur jeu de société. Ça va jouer très fort dans leur salle de jeu qui s'ouvrira pour notre plus grand plaisir une fois que nous aurons neutralisé cet impitoyable virus. Je vous rappelle qu'elle propose des bons d'achat via le site Carpentras Notre Ville, vitrine de l'assaut des commerçants, et vous pouvez retrouver leurs conseils BD sur leur Facebook. Jessica et Jennifer du livre Gourmand organisent avec des commerçants du quartier des livraisons ou drives de commandes groupées. Elles vont bientôt sortir une box spéciale confinement. Vous retrouverez les infos sur leur site internet et Facebook du livre Gourmand. La prestigieuse, la très prestigieuse bibliothèque de Linguin-Bertine vous communique et partage toujours son savoir via le site internet et Facebook. Alors oui, si vous n'avez pas d'accès internet, restez radiophone. Ça vous comblera tout autant, d'autant plus que la profusion de contenu sur le monde sauvage d'internet amène à l'indigestion.
Un livre, une BD, la pièce du mois.
Je pense à Nathalie David et sa librairie Maison d'édition Esprit des lieux de Saint-Léger du Ventoux. Lors de notre précédente émission Mots de passe, elle m'a livré quelques conseils avisés de lecture que j'ai suivis avec mon plus grand sérieux de lectrice. Et qui mieux qu'une libraire peut vous conseiller un bon livre ? Elle m'a confié la lecture stupéfiante de Vassili Peskov. Ça, c'est la version courte du nom russe, qui compte l'histoire véritable d'une famille d'anachorètes. Alors, anachorète, ce n'est pas un bonbon mentholé, mais un individu qui a choisi l'isolement pour la bonne pratique de sa croyance. Une famille d'ermites qui a vécu au plus profond de la taïga, dans une Russie sauvage et glaciale, dans laquelle cette famille a survécu avec rien de ce que le siècle pouvait apporter. Cette famille qui se nomme Likov n'accepte pas depuis un sombre schisme religieux tout le néfaste du monde moderne. Ils ont vécu 40 ans en ermitage total. jusque dans les années 80 où ils sont découverts. Et Vassili Peskov, journaliste, photographe, voyageur et écologiste russe qui a travaillé toute sa carrière au journal russe comme Sovskaya Pravda, j'ai essayé d'utiliser mon meilleur russe, que je n'ai pas. Il nous narre l'histoire incroyable de cette famille qui a connu les plus grandes difficultés pour sa survie, mais elle a survécu avec la plus grande méthode, respect et un véritable courage. À ce jour, il ne reste plus qu'Agafia Likov de vivante. Je peux vous dire qu'après ce récit incroyable, nos déboires actuels sont... Je n'ai pas de mots. Lisez-le, vous ne regarderez plus jamais une pomme de terre de la même façon. Un dernier mot pour clore mot de passe du mois d'avril 2020. Construire l'interview a été très très technique et ça manque un petit peu de spontanéité, je m'en désole. Pour cause, Marie Le Gall n'était pas à mes côtés, nous avons respecté les règles d'hygiène salvatrice. Mais Florian, comme à son habitude, a travaillé pour faire un rendu audible et je l'embrasse à distance. J'embrasse aussi toute l'équipe qui fait que chaque jour, nous restons en contact les uns les autres. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à apporter vos suggestions sur le site de l'émission rtvfm.net ou sur le répondeur de la radio au 04 86 15 46 17 ou encore sur le courriel contact@rtvfm.net. Et pour les épistoliers, c'est mes préférés ceux-là, chemin de l'Ermitage, cours des anciennes écoles, 84 200 Carpentras. Lisez, c'est la liberté. Ciao!
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Quand les certitudes s'effondrent en quelques secondes, sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie c'est providentiel. Mon accidentelle. ta vie plus confidentielle. Confidentielle.